La complainte du progrès. Autrefois, pour faire sa cour, on parlait d'amour. Pour mieux prouver son ardeur, on offrait son cœur. Maintenant, c'est plus pareil. Ça change, ça change. Pour séduire le cher ange, on lui glisse à l'oreille. Ah, Gudule, viens m'embrasser et je te donnerai un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du dalopio, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau, une tourniquette pour faire la vinaigrette, un bel aérateur pour bouffer les odeurs, des draps qui chauffent, un pistolet à gaufre, un avion pour deux, et nous serons heureux. Autrefois, s'il arrivait que l'on se querelle, l'air lugubre, on s'en allait en laissant la vaisselle. Maintenant, que voulez-vous? La vie est si chère. On dit rentre chez ta mère et on se garde tout. Ah, Gudule, excuse-toi ou je reprends tout ça. Mon frigidaire, mon armoire à cuillère, mon évier en fer et mon poêle à mazout, mon cire godasse, mon repas solimace, mon tabouret à glace et mon chasse-filou, la tourniquette à faire la vinaigrette, le ratatine ordure et le coupe-friture. Et si la belle se montre encore rebelle, on l'affiche dehors pour confier son sort au frigidaire, à l'efface poussière, à la cuisinière, au lit qui est toujours fait, aux chauves-savates, aux canons à patates, à les ventres tomates, à l'écorche poulet. Mais très très vite, on reçoit la visite d'une tendre petite qui vous offre son cœur. Alors on cède, car il faut qu'on s'entraide, et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois.
Bonjour à toutes et à tous. Jeanne Boursier pour Chronique d'un siècle sur Radio Boomerang 89.7 FM. Rien de tel que la complainte du progrès de Boris Vian pour entrer dans notre sujet. Dans notre monde de progrès, faire les courses est devenu un véritable parcours du combattant. Si ce ne sont pas les prix qui vont du simple au double, ce sont les produits qui se font chez l'un qui ne se font pas chez l'autre. Et mon expérience de ce matin m'a forcé à admettre que pour acheter une planche à pain, 5 grandes surfaces ne suffisaient pas. Il va falloir passer par Internet. Pourtant, nous constatons atterrés que nous sommes à l'ère de la simplification pour tout ce qui concerne autre chose que la marchandise. En effet, nous sommes à l'ère de la simplification. Chaque jour nous apporte la preuve de l'appauvrissement de la langue, de l'art, du divertissement, de la culture, de la pensée, du sport, de l'esprit critique, de la cuisine, de l'amour, etc. Et surtout de l'éducation nationale. De la maternelle à l'université, la simplification prend des proportions telles que la France a atteint un taux d'illettrisme de 7%, soit 2 500 000 personnes. Il faut dire que les décrets et réformes diverses et variées que mettent en place depuis plusieurs décennies les différentes politiques ont abouti à la destruction de ce que des êtres éclairés avaient mis plusieurs siècles à construire, à savoir l'enseignement pour tous, grâce à l'école gratuite, laïque et obligatoire. Nos pédagogues à la mode pensent que la simplification permet aux élèves d'avoir une compréhension plus rapide et plus facile du savoir. Mais dans quel cerveau malade a pu germer une telle idée? Au XIXe siècle, il ne serait venu à l'esprit d'aucun fou de penser qu'un enfant, un adolescent ne puisse comprendre un texte ancien, un auteur classique, ne puisse apprendre la chronologie historique ou la géographie, les mathématiques, la musique, le dessin, la grammaire, les sciences. Aujourd'hui, un étudiant ou une étudiante, n'oublions pas le féminin, je risquerais d'être accusé de misogynie ou de discrimination de je ne sais quoi. Donc je disais, un étudiant ou une étudiante de première année de lettres modernes confond le XVIe siècle avec le XIXe siècle, allant jusqu'à penser que Rabelais appartient au courant du romantisme. Évidemment, les bras m'en tombent, et je repense avec nostalgie à ma première année de lettres classiques il y a 45 ans. Que s'est-il donc passé pour que nous en soyons arrivés à ce niveau d'inculture chez des étudiants en lettres ? Rassurez-vous, dans les autres filières, la catastrophe est identique. Attention, ce ne sont pas les derniers de la classe, comme dans le poème de Robert Lamoureux.
Pour tous les gens qui ont été derniers de leur classe, qui ont des enfants momentanément, bien sûr, derniers de leur classe, j'écris un petit poème que je dédie à tous ces gens-là, et que j'ai intitulé « Le dernier de la classe ». C'est un poème dont je suis l'auteur, c'est moi qui l'ai fait moi-même. Je vous remercie. Comme ça, vous saurez qui applaudir quand ça sera fini. Alors, à la fin d'une année scolaire, le dernier, au fond, qu'est-ce qu'il sait ? À quoi ça lui a servi de faire tous les affreux devoirs qu'il a faits ? Il n'a jamais connu le bien-être du bon élève qui sait ses leçons, ni le regard amical du maître qui sourit en disant son nom. Sur son cahier, il y a 500 tâches. C'est ce qui fait dire à ses parents, à ce gosse-là, il faut la cravache. Quand on est bon qu'à faire des tâches, la cravache, il n'y a que ça qu'on comprend. Qu'est-ce que tu fous à l'école ? Qu'est-ce que tu fous si tu fous rien ? Et de tout son cœur qui se désole, le petit répond, oh, il en a appris des choses, la petite classe au certificat. Il sait qu'il y a des nuages qui sont roses vers 4 heures pendant la leçon de choses, quand le soleil fout le camp, tout là-bas. Il sait très bien ce que c'est qu'une droite, une droite qui n'a ni d'A ni de B. Quand le soleil du matin éclate, il y a ses rayons qui font des droites. C'est comme ça qu'il apprend le dernier. Lui, ce qui l'amuse, ce sont les mouches qu'on garde captives dans un bouchon. Les mots qui font drôle dans la bouche, comme tintinabule ou polochon. À la fin d'une année scolaire, à la distribution des prix, le petit dernier traîne sa misère sous le regard méprisant de son père. Et sa détresse est infinie. Mon petit copain dernier de la classe, moi je sais bien que t'es pas le dernier. Puis console-toi, les années passent. En prenant la vie face à face, tu verras que les premières places ne sont pas toutes pour les premiers.
Il est bien attendrissant, ce dernier de la classe. Malheureusement, en 2023, il n'en est plus question. Il n'y a pas de dernier de la classe. Mais des classes entières sont soumises à un programme mutilé, appauvri, sans rigueur, sans devoir. Je me souviens des pages d'exercice du bled que l'on faisait le soir à son bureau. Des questions de texte auxquelles il fallait répondre. Et cela dès la primaire. Je peux vous affirmer qu'à la fin de notre scolarité, l'on savait lire, écrire et surtout comprendre un texte. Car si l'on ne comprend pas ce qui est écrit ou ce qui est dit, l'on devient un être malléable, à qui l'on peut faire croire les pires âneries, à qui l'on peut faire signer les pires contrats. Notre société avait, il y a quelques années encore, besoin de travailleurs instruits, malins, critiques. Mais le capitalisme n'a plus besoin de ces femmes et de ces hommes. Il veut en 2023 des êtres soumis et sans réflexion, des êtres à qui il dit quoi penser. Et si par malheur on pense différemment, l'on passe pour un complotiste. Et maintenant un petit intermède avec les goguettes. C'est le Covid qui redémarre.
On reconfine le territoire, c'est la Covid qui redémarre. Et oui, le virus a muté. Il joue au foot et boit du thé. Tout le monde en télétravail pour pas que l'économie déraille.
Avec ses enfants dans les pattes,
en plus on révisera les maths. C'est très simple dans le commerce, tout est ouvert ou presque. Suffit de lire le troisième tiré, deuxième alinéa, petit b du grand 3 de l'article 34 du décret.
Personne dans les musées, c'est beaucoup trop risqué. Ces lieux où l'on fait la bamboche, oui c'est incontestable que les gens se mettent minables devant des tableaux de Jérôme Bosch.
Pour éviter un désastre, faut aussi fermer les théâtres. Le virus se met en colère, sitôt qu'on déclame du Molière. Rester chez soi en vacances, c'est ce qu'il y a de mieux quand on y pense. On n'a pas à faire ses bagages, on évite les embouteillages.
Sur les vaccinations, on est presque aussi bon qu'à l'Eurovision chaque année. Et si ça sert à rien, pour le variant brésilien, y aura Zidane pour nous sauver.
Macron, c'est un spécialiste, épidémiologiste, ses prédictions ne sont jamais fausses. Oui, c'est un puits de science, niveau intelligence, c'est vraiment lui qui a la plus grosse.
Pour ne pas que tu t'embêtes, voici pour toi une devinette.
Si je vais dîner dans un resto, suis-je résistant, suis-je collabo?
Et pour t'aider à passer le temps, poursuivons ce jeu amusant.
Quel est l'intrus parmi ces mots? Métro, boulot, dodo, bistrot.
La Covid, 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 la Covid. On en a carrément marre de la Covid qui redémarre. Nos souvenirs commencent à être vagues, de la vie d'avant la première vague. Rendez-nous le monde d'avant, d'avant le virus et ses variants. Et s'il doit n'en rester plus qu'un, ce soit le variant jamaïcain.
Dans un magasin, j'ai demandé où se trouvait la papeterie. Un jeune homme formé à l'école de ce début de 21e siècle m'a regardé avec des yeux de merlan frit en bégayant la qu'est-ce que c'est? Devais-je rire ou pleurer? Je lui ai gentiment expliqué ce que c'était que la papeterie. Situation impensable il y a encore 20 ou 30 ans. Il faut simplifier les programmes. Les pauvres enfants sont trop sollicités par les maths, m'avait dit un jour une mère d'élèves de première, qui trouvait que je donnais trop de textes, trop d'informations inutiles, c'est-à-dire contextuelles, à son fils, qui avait des maths, des sciences à étudier. C'est vrai, le français secondaire, surtout en première, l'année du bac français, ce fut le commencement de la fin. Je crois qu'il est temps d'écouter le certificat d'études, un extrait de Mort à crédit de Céline. Ce texte est dit ici par Arletty.
Le certificat d'études. Le matin du certificat, ma mère a fermé sa boutique pour pouvoir mieux m'encourager. Ça se passait à la communale près de Saint-Germain-l'Auxerrois, dans le préau même. Elle me recommandait en route d'avoir bien confiance en moi-même. Le moment était solennel, elle pensait à Caroline, ça la faisait encore pleurnicher. Tout autour du palais royal, elle m'a fait réciter mes fables et la liste des départements. À 8h juste, devant la grille, nous étions là qu'on nous inscrive. Il y avait du soin dans les habits, tous les mots m'étaient décrottés, mais énervés au possible, les mères aussi. Il y a eu d'abord la dictée, ensuite très difficile, je me souviens, il n'y avait qu'à copier. On faisait, nous, partie des refusés de l'automne, de la session précédente, pour presque les devenir apprentis. À l'oral, je suis l'un qui avait des verrues plein son nez. Portait une grande lavalière, un peu dans le genre de l'oncle Arthur. Je suis pourtant pas un artiste. Pharmacien qui l'avait été rue Gombouste. Il y a des personnes qui le connaissaient. Il m'a posé deux questions à propos des plantes. Ça, je ne savais pas du tout. Il s'est répondu à lui-même. J'étais bien confus. Alors il m'a demandé la distance entre le soleil et la lune, et puis la terre et l'autre côté. Je n'osais pas trop m'avancer. Il a fallu qu'il me repêche. Sur la question des saisons, je savais un petit peu mieux. Je marmonnais les choses vagues. Ouais, il n'était pas exigeant. Il finissait tout à ma place. Alors il m'a posé la question sur ce que j'allais faire dans l'avenir, si j'avais un certificat. Je vais entrer, que j'ai dit lâchement, dans le commerce. C'est dur le commerce, mon petit, qui m'a répondu. Vous pourriez peut-être encore attendre. Peut-être encore une autre année. Il ne devait pas me trouver costaud. Du coup, j'ai cru que j'étais collée. Je pensais au retour à la maison, au drame que j'allais déclencher. Je sentais monter un vertige. Je croyais que j'allais défaillir tellement que je me sentais battre. Je me suis raccrochée. Le vieux, il m'a vu pâlir. Mais non, mon petit, qui me fait rassurez-vous donc. Tout ça n'a pas d'importance. Moi, je vais vous recevoir. Vous y entrerez dans la vie, puisque vous y tenez tant que ça. J'ai été me rasseoir sur le banc à distance, en face du mur. J'étais quand même bouleversée. Je me demandais si c'était pas un mensonge commode pour se débarrasser. Ma mère était devant l'église sur la petite place, elle attendait les résultats. C'était pas fini pour tout le monde. Il restait des mômes. Je les voyais, les autres, à présent. Ils bafouillaient leurs confidences par-dessus le tapis. La carte de France, les continents. Depuis qu'il m'avait dit ces mots à propos d'entrer dans la vie, je les regardais, les petits compagnons, comme si jamais je les avais vus. L'angoisse d'être reçu les coinçait tous contre la table. Ils se tortillaient comme dans un piège. C'était ça, rentrer dans la vie. Ils essayaient dans l'instant même de s'arrêter d'être que des mômes. Ils faisaient des efforts de figure pour déjà prendre des allures d'hommes. On se ressemblait tous à peu près comme ça, vêtus, en tablier. C'était des enfants comme moi, de petits commerçants du centre, des façonniers, des bazars. Ils étaient tous assez chétifs. Ils s'écarquillaient les mirettes, ils en haletaient comme des petits kleps dans l'effort de répondre aux vieux. Les parents, le long de la muraille, surveillaient la procédure. Ils jetaient des regards vers leurs moutards, des coups de chasse carabinés, des ondes à leur couper la chic. Les gosses, ils se gouraient à tout coup, ils se ratatinaient davantage. Le vieux, il était inlassable. Il répondait pour tout le monde. C'était la session des crétins. Les mères s'empourpraient à mesure. Elles menaçaient de 1000 raclées. Ça sentait le massacre dans la pioule. Enfin, tous les mômes y ont passé. Il ne restait plus que le palmarès. C'était le plus beau du miracle. Tout le monde était reçu, finalement. L'inspecteur d'académie l'a proclamé sur l'estrade. Il avait un bid à chaîne, une grosse breloque qui sautillait entre chaque phrase. Il bafouillait un petit peu. Il s'est gouré dans tous les noms. Ça n'avait aucune importance. Il a profité de l'occasion pour prononcer quelques paroles tout à fait aimables et très cordiales, très encourageantes. Il nous a bien assuré que si on se conduisait plus tard dans la vie, dans l'existence, d'une façon aussi valeureuse, on pouvait être bien tranquille qu'on serait sûrement récompensé.
La qualité du son n'est pas excellente, mais je n'ai pas trouvé de meilleure version. Ouvrez un mémento de poche du certificat d'études et vous constaterez tout ce que l'enseignement a perdu en cours de route. Ce certificat, créé en 1866 par Victor Duruy, a disparu en 1989 après plusieurs réformes, et particulièrement celle de 1972 qui réservait ce certificat aux adultes. C'est d'ailleurs depuis ces années post-68 que l'on assiste à la destruction de ce que l'on a appelé jusqu'en 1932 l'instruction publique. Terme exact si l'on considère que l'éducation relève d'un domaine réservé à la famille. Pourquoi penser qu'un enfant n'est pas en mesure de comprendre, d'apprendre? Il faut lui expliquer, et cela prend du temps. Il faut partager, transmettre, répondre 10 fois à la même question. L'éducation nationale a démissionné en appauvrissant les programmes. Manifestement, l'État estime qu'avoir des connaissances, un esprit critique, une ouverture sur le monde est dangereux. Mais je ne vais pas me répéter. Lorsque je lis les programmes, je comprends pourquoi politiciens et capitalistes ont les mains libres pour construire le monde qu'ils veulent. Le Moyen-Âge est une époque sombre, la Renaissance est formidable. Je passe sur le XVIIe et le XVIIIe siècle, qui deviennent des prétextes pour laisser la parole au monsieur Tombola de Macron, j'ai nommé Stéphane Bern. Très peu sur les révolutions du XIXe siècle, sur le Second Empire, un soupçon de bêtise, rien sur la Commune et une Troisième République salvatrice. Je passe sur les auteurs, puisqu'il n'existe plus que Maupassant, Zola, quelquefois Flaubert et Balzac. Les autres étant considérés comme antisémites notoires, précurseurs du nazisme pour certains, il vaut mieux les faire disparaître dans les oubliettes de la littérature. Un sujet important, au XIXe siècle, l'affaire Dreyfus. Quant au XXe siècle, la guerre de 14-18, drame européen et effondrement de l'Occident, est étudiée. Puis ensuite, les totalitarismes, sans distinction aucune. Et enfin, la Shoah. Puis la guerre froide, et enfin le terrorisme. En revanche, rien ou si peu sur les guerres coloniales, la Somalie, le Kosovo, le Yémen, le Soudan, et la liste serait longue. Moi, je trouve ça un peu juste pour que notre jeunesse puisse comprendre le monde dans lequel elle vit et puisse se poser les questions qui lui permettraient de construire son monde et non pas celui des gouvernants. En revanche, ce qui marche du tonnerre de Brest, ce sont les officines pour cours de soutien. Elles pullulent avec la bénédiction de l'éducation nationale, évidemment. Bonjour Thomas, tu es professeur de philosophie et je préfère te laisser la parole.
Une enseignante française a récemment reçu un prix, le Global Teacher Prize, décerné par la Fondation Varquet, pour un ouvrage intitulé « La classe autonome ». Globalement, il s'agit de réinventer le fil à couper, le beurre et l'eau tiède, en utilisant en classe tout un arsenal de gadgets, quiz, réalité virtuelle, cartes mentales et téléphones portables. Il s'agit donc d'un prix remis par une fondation privée, donc cette fameuse fondation Varquet, à un enseignant de l'éducation nationale, qui est strictement une œuvre de une démolition de l'enseignement, qui est poursuivie au gré de multiples réformes depuis au minimum une trentaine d'années. Cette fondation peut très facilement trouver des informations sur ses activités en pianotant un petit peu sur Internet, et on se rend compte que derrière cette fondation à but non lucratif se cache une véritable multinationale de l'enseignement privé fondée par un Indien vivant à Dubaï, Sunny Varquet, qui a fait fortune dans les années 70 et 80 en enseignant l'anglais aux multiples immigrés du sous-continent indien qui venaient travailler dans le cadre du boom pétrolier à l'époque. Si on s'intéresse à la présentation que le groupe donne de lui-même, il s'agit de proposer des écoles qui sont à la portée des moyens financiers des endroits dans lesquels elles sont installées. Alors vous avez tout un éventail de l'école de luxe, avec golf, activités hippiques et autres cours de tennis, jusqu'à l'école la plus cheap pour pays pauvres. L'esprit qui est donc ainsi véhiculé, c'est qu'on donne à chacun l'enseignement qu'il peut s'offrir selon les moyens financiers dont il dispose. Il ne me semble pas du tout que ce genre d'approche de l'éducation et de l'enseignement soit en accord avec l'esprit qui, prétendument, a présidé à la construction de l'éducation nationale en France. En m'intéressant à cette fondation, je me suis fait la réflexion suivante. Pendant la période médiévale, largement considérée aujourd'hui comme une période obscurantiste, l'Europe était couverte d'écoles qui dépendaient de l'Église et dans lesquelles les moines et les clercs de manière générale accueillaient tous les enfants qui présentaient des dispositions intellectuelles particulières. Je pensais notamment à Nicolas de Cusse, ce grand philosophe du XVe siècle qui était fils d'une modeste famille de pêcheurs mosellans et qui a fait des études parce que tout simplement il présentait des capacités intellectuelles qui semblaient devoir être développées. Et je me dis que si on compare l'éducation nationale aujourd'hui en France avec cet enseignement monastique qui était dispensé au XVe siècle, le contraste est assez triste, puisqu'à l'époque, on considérait que ce qui devait être promu, c'était les capacités des élèves et des futurs étudiants, alors qu'aujourd'hui, manifestement, le seul critère qui intéresse les gens qui s'occupent d'enseignement, et même jusque manifestement au cœur de l'éducation nationale, c'est tout simplement de développer une offre concernant une demande solvable, c'est-à-dire un marché. Et je trouve que le contraste est assez inquiétant.
Merci beaucoup, Thomas. Au revoir.
Au revoir.
Je crois qu'il n'y a rien à rajouter après cette interview. En revanche, pour se détendre, voici un extrait de l'institutrice, de Dieudonné.
Allez-y, monsieur Laflippe, entrez, je vous attendais, oui. Non, je suis madame Fournieux, moi, hein, je ne suis pas la maîtresse, moi. Hein. Je suis la maîtresse de Francis, je ne suis pas la directrice, je veux dire. Hein. Asseyez-vous, hein. Assez dur en ce moment. Hein. Assez très dur pour votre fils. Hein. Mais vos problèmes de couple ont beaucoup affecté l'enfant. Hein. Il s'est remis à faire pipi caca 3-4 fois par jour. Hein. Oui. C'est fatigant, hein, même pour nous, parce qu'on n'est pas là pour ça, vous savez. Puis, pardon, madame. Hein. Non. Vous savez, Francis n'a plus le goût à rien. Ah. Puis le gros problème, vous savez, le gros problème qu'on a, monsieur, oui, mais je vous coupe, parce que je veux dire, c'est moi qui parle, hein, c'est important. Le gros problème qu'on a, c'est qu'il est très, 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 très méchant. Hein. Ah, c'est pour ça que je me suis permis de vous convoquer, monsieur Laflippe. Ah non, c'est plus que préoccupant, monsieur, quand vous avez un enfant, monsieur, qui vient en classe avec des têtes de chien coupées dans son cartable. Des pattes de rat, des rats crevés, il ramène tout l'autre. Hein. Ah non, mais même psychologiquement, il faut voir quelqu'un, là, hein. C'est pas normal, hein. Puis on a peur, je veux dire, tout le monde a peur, hein. Moi j'ai peur. Et il a quand même mordu madame la directrice au visage, vous êtes au courant de cette histoire. Parce qu'elle est toujours à l'hôpital, madame Triquet, là, hein. Mais bien sûr. Ah ben moi j'étais la voir hier soir, vous savez, elle est dans son lit d'hôpital, la pauvre. Ah, elle est comme ça. Et à un moment donné, il y a un enfant qui passait à la télé, simplement. Ah, elle ne peut plus. C'est-à-dire la vision de l'enfant, elle ne peut plus, le frère. Mais c'est gênant, parce qu'elle est directrice d'école, vous savez. Hein? Comment ça est... Oui, bien sûr, il y a les assurances, monsieur. Oui, mais enfin, monsieur, mais on n'est pas payé pour se faire dévorer, enfin, qu'est-ce que c'est que cette mentalité? Bon, puis moi, je voulais vous poser, monsieur... Oui, bref, moi, je voulais vous poser la question aussi, je ne sais pas si c'est chez vous, hein, qui regarde les cassettes, hein? Les cassettes, ben, les cassettes à caractère... graphique, il n'y a pas d'autre mot, hein. Voilà, les films de cul, si vous voulez, oui. Ah, faut qu'il arrête, là. Ah, non, les enfants se plaignent. Hein. Ah, ben, ils auraient eu des petits problèmes avec leur derrière, vous voyez ce que je veux dire. Ah, ben, oui, alors, en gymnastique, on attend le rapport des médecins, vous savez. Ne riez pas, monsieur Laflippe, hein. Il semblerait qu'il y ait eu farfouillation, hein, je veux dire. Non, mais il pourrait y avoir des poursuites en justice. Il y a un des parents, monsieur Laflippe, qui est procureur de justice. Hein, je vous cache pas que lui, vous ferez pas rigoler avec vos blagues. Hein. Pardon, vous l'enculé. Ah, d'accord. Alors là, faut voir ça avec lui directement, parce que là, moi, je... Oui, mais c'est vous qui lui laissez voir ses cassettes ou pas? Alors, oh là là, mais vous avez le droit, monsieur, mais non, mais c'est instructif, mais c'est quand même interdit au moins de 18 ans, monsieur. Ben, il a quel âge? Il a 6 ans et demi, votre enfant. Ben, il y a une histoire de palier à respecter, il y a des cassettes pour 6 ans et demi, des cassettes, ainsi de suite, jusqu'à 18 ans, pardon? Mais on ne peut plus le laisser faire, monsieur Laflippe, on ne peut plus le laisser faire. Mais enfin, monsieur Laflippe, faut nous comprendre, on est des humains aussi, on ne peut pas, on ne peut, oui, mais... Oui, mais vous aussi, monsieur Laflippe, vous êtes humain certainement, je ne sais pas, moi, mais... Oui, mon dire, oh, j'ai l'impression que vous n'avez pas conscience, c'est ça, de votre enfant. Quand par exemple, oui, mais quand par exemple, Francis décide de faire tout un tas de scarifications, hein, les petites cicatrices, tu sais, africaines, là, au couteau commando sur sa voisine de classe, je fais comment, moi, monsieur Laflippe? Non, mais bien sûr, ça peut être joli, une scarification, oui. Oui, mais si c'est fait harmonieusement, je veux dire, puis c'est un rite africain, et puis déjà, il faut demander à la personne concernée. Voilà, sinon ça n'a... Bon, là, il se trouve que c'était une petite malienne, bon. Alors, on a eu de la chance, mais enfin, bon... Et heureusement pour vous, surtout, que les parents ne sachent pas s'exprimer en français, croyez-moi. Hein, parce que là, ils étaient en droit de porter plainte, à réveiller... Mais je ne vous menace pas, monsieur Laflippe. Mais non, je ne joue pas le jeu de votre femme. Vous savez, dans ces histoires-là, nous on essaye de rester neutre. Hein, on n'a pas à s'inter... Oui, mais monsieur, le problème, c'est quand vous avez un enfant qui menace de vous exciser, par exemple. Mais il m'a menacé, enfin. Un matin, il arrive, il me dit, je vais t'exciser, il m'a fait... Avec son ciseau, je lui dis, mais hors de question que tu m'excises, enfin. Il me dit, si, je vais t'exciser. J'ai essayé de lui expliquer gentiment. Je lui ai dit, écoute, personnellement, je ne suis pas Touareg. Hein? C'est un projet que je n'ai pas formulé. Laisse-moi tranquille maintenant. Hein? Ah, c'est ce jour-là, je lui ai mis une petite tape sur les mains. Ah oui, bah dis donc. Non, je sais bien qu'on n'a pas le droit de taper les enfants, monsieur, mais ils n'ont pas le droit de vous exciser aussi.
Les extraits de ce sketch me mettent personnellement en joie. La simplification, c'est aussi ces voix insupportables dans les bus, le métro, le tram, pour annoncer les noms des stations. Encore un truc qui n'existait pas. On savait encore lire au XXe siècle. Cette simplification touche malheureusement les livres pour enfants. Prenons les livres de la Bibliothèque Rose. Le fameux Club des Cinq, qui fit les délices de mon enfance. Les éditeurs l'ont revisité et ont demandé une traduction simplifiée. Fini le passé simple, fini les mots trop compliqués. Les enfants d'aujourd'hui ne doivent pas employer un vocabulaire trop évolué, ne doivent pas réfléchir à partir d'un livre, ne doivent pas savoir construire un discours. Non, tout cela est désuet et surtout, encore une fois, dangereux. Réfléchir, comprendre, analyser forme des êtres humains capables de penser, et notre société semble en avoir peur. Voici donc deux extraits du Club des Cinq, le premier datant du XXe siècle, le deuxième du XXIe. Claude, ma chérie, reste tranquille 5 minutes, je t'en prie. Je voudrais me reposer un peu et c'est fatigant de te voir entrer et sortir sans cesse avec ce chien sur tes talons. Claude, tu ne veux pas rester tranquille 2 minutes? Tu ne peux pas savoir comme c'est fatigant de te voir entrer et sortir sans arrêt avec ce chien sur tes talons. La suppression de la marque d'affection maternelle dans la seconde version me choque, mais je vous laisse juger. La simplification a tellement fait de dégâts qu'un étudiant de seconde année de licence de lettres modernes a, dans un commentaire de texte, écrit « Rabelais se déglingot ». Là, je vous avoue, je n'ai plus de mots. La simplification, c'est aussi la teneur des émissions de télévision. Des jeux plus stupides les uns que les autres, des Hanouna au service de Macron, des documentaires politiquement corrects, des films navrants, des téléfilms dégoulinants de bons sentiments, des émissions de variété à pleurer, des émissions littéraires du niveau des romans de gare. Du haut de mes 63 ans, je me souviens d'un jeu comme Monsieur Cinéma, d'émissions de variété comme Le Grand Échiquier, d'émissions littéraires comme Apostrophe. Je terminerai cette émission avec un extrait de Lecture pour tous, la première émission littéraire de la télévision française, créée et présentée par Pierre Dumayet, Pierre Desgroupes et Max-Paul Fouché. Elle fut diffusée pendant 15 ans. De 1953 à mai 1968.
Nouveau mouvement déclenché ce matin à Paris, les ouvriers et les techniciens des théâtres lyriques nationaux, opéra et opéra comique, ont décidé une grève illimitée avec occupation des locaux et des banderoles revendicatives sont apparues ce matin sur le Palais Garnier. Parmi les revendications, augmentation des salaires, abolition des ordonnances sur la sécurité sociale et création d'un comité de co-gestion. Cet après-midi, le personnel du Théâtre National Populaire, le TNP, s'est joint à ce mouvement. D'autre part, les personnels des services de nettoiement de la ville de Paris ont également décidé une grève illimitée avec occupation des locaux de leurs entreprises. En ce qui concerne la RATP, le trafic du métro est nul et le trafic des bus s'est arrêté dans l'après-midi. 21 lignes de remplacement par camion militaire gratuit seront mises en place dès demain matin dans le sens banlieue Paris. À la SNCF, le trafic est nul sur l'ensemble du réseau et les gares parisiennes sont désertes. Et le dimanche des ouvriers de Renault à Boulogne-Billancourt s'est déroulé en compagnie de Pia Colombo et de Lenny Escudero. Le comité d'établissement de la régie Renault, qui avait prévu pour aujourd'hui sa fête annuelle de l'enfance, a en effet déplacé cette fête devant les portes de l'usine occupée en raison des difficultés de transport et afin de distraire les ouvriers ainsi que leurs familles venues leur rendre visite.
Ce document d'époque évoque donc la période sociale de mai 68, avec comme résultat les accords de Grenelle, dans lequel se trouve, entre autres, l'augmentation de 35% du SMIG et de 10% des salaires. Ça, c'était de la grève. Les syndicats de 2023 devraient en prendre de la graine. Mais 68, c'est donc aussi la fin de Lecture pour tous, cette émission culturelle intelligente, mais ne correspondant pas à l'esprit des jeunes bourgeois de la période étudiante, qui deviendront, pour la plupart, de bons bourgeois capitalistes, prenant part à la politique comme Cohen-Bendit, député européen, à la presse comme Serge July, par exemple. Voici donc Lecture pour tous. Dans cet extrait, Pierre Desgroupes conseille la lecture de Paul Nizan en 1967.
Je ne suis pas fort pour les confidences et encore moins à la télévision. Il faut pourtant que je vous en fasse une. À ma grande honte, je n'avais jamais lu jusqu'à ces jours derniers Paul Nizan. Nizan, c'est un jeune homme en colère contre toutes les mutilations que le monde dans lequel il vit, et je ne vois pas pourquoi il serait dans notre avis aujourd'hui, lui impose. Il est en colère contre les philosophes dont il a suivi à l'école normale ou à la Sorbonne les cours, les philosophes qui parlent de l'homme avec un grand H, mais qui ne parlent et qui n'ont jamais parlé des hommes avec un petit H, des hommes qui meurent de faim, qui meurent assassinés dans les guerres ou tabassés tout simplement dans tous les commissariats de police du monde. Il est en colère contre les grands écrivains bourgeois libéraux de son temps. Je n'ai pas besoin de citer des noms. Les grands écrivains qui s'attardent si longuement à contempler chaque repli et chaque mouvement de leur âme qu'ils ont toujours 20 ans de trop au moment où il faudrait pouvoir dire aux jeunes qui le leur demandent qu'il faut agir et comment agir. Et Nizan, eh bien, c'est quelqu'un qui est là pour réveiller. C'est pour ça que je vous conseille de le lire. Et peut-être que vous me direz, ce jeune homme que vous nous avez présenté, pourquoi est-il si désagréable avec nous? Eh bien, c'est parce qu'il est désagréable qu'il faut le lire. Des écrivains bien élevés, nous n'en manquons pas. Mais ce qu'il nous faut, ce qui nous manque, ce sont des écrivains désagréables.
Parler de Paul Nizan était prémonitoire. En effet, cet auteur, mort en 1940 à l'âge de 35 ans, fut le symbole de la jeunesse révoltée. Et les étudiants, qui avaient encore des lettres, prirent comme slogan la première phrase de son roman « Aden Arabi ». « J'avais 20 ans, je ne laisserai personne dire que c'est le plus bel âge de la vie ». En 1973, l'on pouvait écouter le grand échiquier. Celui que j'ai choisi était consacré à Mouloudji. On y entend au début Jean-Louis Barrault se souvenir du petit Mouloud, âgé de 12 ans.
Le nom de Mouloudji, pour moi, a remué un tas de souvenirs. Je le connais de 1934. Il y a secrètement en lui certainement une volonté bien déterminée et instinctive de mener sa vie comme il l'entend. Et avec Robert Desnos, nous lui avons fait faire son premier cachet de radio. C'était rue Bayard, je crois. Et à notre grande surprise, en sortant du studio, voilà que Moulou nous plante sur le trottoir, se met à cavaler et disparaître au coin de la rue, avec l'argent de son cachet de radio. On est un petit peu surpris, un peu déçu avec Robert. On disait tout de même, voilà, il nous tourne le dos, il fiche le camp comme un petit sauvage. Eh bien, il était simplement aller se précipiter chez un marchand de chaussures pour acheter une paire de chaussures pour son père. Il a une tendresse certaine, mais un sourire très aigu. C'est-à-dire, il peut très bien dire très gentiment des choses terribles. Et ça, c'est très bien. Un sourire qui se regarde vivre, qui regarde la vie, et en même temps, une sorte de mélancolie intérieure qui l'entretient et qui lui fait plaisir.
Que le temps passe vite. Hier, j'étais encore enfant, le cœur tout neuf comme un printemps, et des rêves dans chaque crique. Que le temps passe vite, et d'avenir souvenir. T'en vas l'amour, t'en vas le temps, autant t'en emporte devant. Voici venu mes 50 ans et je vis toujours en dimanche, finambule sur le fil du temps, toujours un vieil oiseau sur les branches. Mes amours n'en finissent plus de se traîner de mort en morte, au long des années disparues, mes amoureuses prennent la porte. Que le temps passe vite, hier j'étais encore enfant, le cœur tout neuf comme un printemps, et des rêves dans chaque querique. Que le temps passe vite et d'avenir en souvenir. Tant à l'amour, tant à le temps, autant en emporte devant. J'ai un cœur de monde piété, où sont bijoux de toutes sortes, lettres d'amour, baisers, panés, grand béquin que le vent emporte. Là, je ne donne pas de raison, c'est la raison qui prend de l'âge. Ce sont des choses qui s'en vont dans l'inéluctable naufrage. Que le temps passe vite, hier j'étais encore enfant, le cœur tout neuf comme un printemps, et des rêves dans chaque crique. Que le temps passe vite et d'avenir en souvenir. Tant va le temps, autant en emporte le vent, autant en emporte le vent.
Bonsoir, nous sommes heureux de vous retrouver, d'aller ainsi avec vous d'un mois à l'autre, de Montan à Mouloudji. Mouloudji vient de chanter que le temps passe vite. C'est vrai que le temps passe vite, mais pas au point de nous faire oublier ces petites pièces rares, ces litanies de poètes, rappelez-vous, comme un petit coquelicot, Barbara, mon pot de le gitan, les enfants qui s'aiment. J'ai l'impression que ces chansons sont de ce matin, ce sont des chansons qui n'ont pas vieilli. Et peut-être que Mouloudji n'a pas d'âge.
Ah, ça, c'est pas ce que je me disais hier matin en me regardant dans la glace. J'avais des ans.
Et vous dites-vous, Mouloudji, moi je choisis l'échec, c'est vrai?
Oh,
ou alors c'est une mode?
Non,
c'est la manière de se créer un personnage.
Non, je trouve que pour moi la vie est trop courte pour la perdre, pour réussir. Puis réussir après qu'on a réussi, ben, qu'est-ce qui vous arrive? Il faut se battre pour tenir. Alors c'est très fatigant, moi j'aime mieux ne pas réussir. Comme ça on me dit des fois que je suis tombé ou que je suis en haut, ceci, ça n'a aucune importance puisque comme ça je n'ai pas à m'occuper de savoir si je réussis ou pas, je gagne ma vie, c'est tout ce que je demande.
Vous dites parfois également que vous aimez les carrières bien menées et que vous les considérez même comme des chefs-d'œuvre. Alors la vôtre, on pourrait la considérer comment?
Ah ben la mienne, vous savez, là, je viens de dire, moi je n'ai jamais demandé dans la vie qu'à gagner ma vie. Et c'est tout. Alors donc, moi, ce n'est pas une carrière. Je demande simplement qu'à gagner ma vie. Mais par ailleurs, quand je vois certaines carrières, je trouve ça un peu prestigieux. C'est évident. C'est une carrière, c'est comme une toile. C'est comme ça se structure, ça se prépare. C'est tout un travail.
Mais c'est peut-être un peu la peur d'être un grand nom sur une affiche, d'être dans un spectacle en dernière partie.
C'est-à-dire, on finit par s'habituer. Moi, mon rêve, c'était d'être vedette américaine. Et j'aurais voulu être vedette américaine parce qu'à
la fin de la première partie.
Oui, on n'a pas de problème d'amener de gens dans la salle. On n'a pas de, en somme, on n'a pas le spectacle sur le dos et c'est très agréable. C'est un métier formidable. Moi, j'aimerais.
C'est peut-être un refus de la responsabilité, hein, cela.
Ah, mais moi, je ne veux aucune responsabilité. Je n'ai jamais voulu de responsabilité. Moi, je le reconnais entièrement.
C'était tout de même autre chose que Voice ou les fêtes de la chanson. Bonne journée à toutes et à tous. Au revoir. Chronique d'un siècle. Une émission culturelle présentée par Jeanne Boursier.
Sur Radio Boomerang 89.7 FM.